Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Les Balkans ont marqué ma vie d'une façon incroyable. J'ai absolument adoré la Yougoslavie à cause de la musique que j'avais découverte, parce que moi j'avais une approche de la musique qui était très bourgeoise et classique, et puis je suis tombé sur ces musiques incroyables. C'était très, le pays était très fliqué encore à ce moment-là. L'objet de haine de tout régime policier, c'était un Agra, c'était un enregistreur, vraiment le truc qu'il ne faut pas avoir. Moi, je suis arrivé à la douane, je l'ai déclaré, et puis j'ai dit, écoutez, alors j'avais affaire à des flics extrêmement rigoureux, détestables, j'ai dit, moi, je prends ce Nagra parce que je veux enregistrer votre musique. Alors, aussitôt, l'hostilité était terminée. Ils m'ont dit, on ouvre une bouteille, et ils m'ont rempli mon carnet d'adresses. La musique, dans ces voyages successifs, m'a véritablement servi de César.
Bonjour à tous. Quand en 1953, Nicolas Bouvier part avec son acolyte Thierry Vernet jusqu'en Afghanistan et au-delà, l'écrivain suisse emmène avec lui un enregistreur portable Nagra, encore à l'état de prototype, que lui a prêté son inventeur lui-même, Stéphane Koudelski. Durant ce voyage mythique qu'il relate dans son livre tout aussi mythique, L'usage du monde, le Nagra deviendra, on vient de l'entendre dans cette archive radiophonique, son passeport, mais aussi le ferment du lien précieux qu'a eu toute sa vie Nicolas Bouvier avec le monde. Les sons venant irriguer plus largement son écriture ciselée, fine et sensible. Jusque-là, cet enregistrement de terrain ou field recording était une pratique, une démarche réservée aux seuls professionnels ethnomusicologues ou audio-naturalistes. Et puis, la technologie aidant, capter les sons du dehors sera à la portée de voyageurs à l'écoute de ce chant du monde qu'ils collectent, composent et restituent dans une vaste polyphonie aux accents artistiques ou scientifiques. Aujourd'hui, à Si loin, si proche, on donne la parole et on tend surtout l'oreille à deux artisans, vagabonds des ondes, français, fils et filles de vent, enfants du son et de l'attente, qui l'un après l'autre, dans cette émission, vont partager avec nous leur paysage et leur voyage sonore.
Qu'est-ce qu'un son signifie pour nous? Est-ce qu'il nous attire? Provoque-t-il la peur? Éveille-t-il des souvenirs? En guise de prélude à l'écoute. Les muscles et les nerfs se détendent peu à peu jusqu'à ce que le corps tout entier ne soit plus qu'oreille.
Félix Blum, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est avec vous que débute ce voyage à Louis Fine. Vous avez 37 ans, vous êtes ingénieur du son de formation, artiste sonore aujourd'hui. Et depuis plus de 10 ans, du Mexique à la Thaïlande, en passant par la Patagonie, vous enregistrez et composez des pièces sonores comme celles qu'on entend ici et qui nous emmènent au cœur de l'Amazonie. Alors qu'est-ce qu'on entend au juste là?
Oui, alors ce qu'on entend là, on est dans un petit village qui s'appelle Tawari, qui est au cœur de l'Amazonie, au Brésil. Et on entend du coup, enfin on a entendu l'ambiance de la forêt, les animaux, les oiseaux, les insectes. Et puis on a entendu juste précédemment quelqu'un qui imite le chant d'un oiseau, qui est justement là derrière, qui siffle. Donc c'est un humain, un habitant du village qui imite le son de cet oiseau et qui lui répond du coup. Cet oiseau en question, c'est le pia hurleur, voilà, qui est un des animaux, un des oiseaux très emblématiques de la forêt amazonienne, qui est assez courant, et surtout qui a un chant très très puissant, qui monte à vraiment des centaines de décibels, et donc qui est très emblématique et un marqueur sonore de cette forêt. On est avec cet habitant, on est avec lui, et on est à l'écoute de l'oiseau en question, mais aussi en fait, de toute la toile de fond, tout ce plan plus large qui est la forêt qui est autour de lui. J'aime bien et je trouve ça important justement de pouvoir jouer entre ces différents éléments, entre l'humain et le non-humain, entre l'animal et aussi la forêt, les plantes, les arbres, et en même temps de jouer sur les différents plans et de poser notre point d'écoute. Là, on est plutôt du côté de l'humain.
Alors, sachant que pour trouver cette matière sonore pleine d'oiseaux, de coupe-coupe, de pas dans les feuilles, parmi les grands arbres de la forêt, d'hommes aussi, vous l'avez dit, qui vivent au fil du fleuve, vous avez vous-même fait un sacré voyage.
Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas si rapidement que ça, heureusement, en forêt amazonienne. Moi, j'étais déjà au Brésil à ce moment-là, quand je suis allé pour la première fois, parce que je suis allé trois fois dans ce petit village. Et à chaque fois, j'ai ramené la matière sonore. Donc voilà, c'est plusieurs avions, plusieurs bateaux ensuite. Et puis au final, il faut quand même faire au moins une heure et demie ou deux de pirogue à moteur pour arriver avec les habitants, avec une vingtaine de familles qui vivent là dans ce petit village de Tawari.
Et alors pourquoi être allé si loin avec vos micros? Est-ce que c'était pour retrouver un son originel, ou en tout cas plus pur de la terre ou de la nature? Je crois pas.
Non, c'est-à-dire, pourquoi aller si loin? Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'on a si proche, justement, des choses qu'on va chercher très loin. Hein. Donc, ça, il n'y a probablement pas de doute. Après, je pense qu'il y a cette idée un peu naïve, peut-être, de l'ingénieur du son, de se dire, voilà, il y a le paradis sonore de la forêt amazonienne, où on a une richesse sonore très grande. Et du coup, c'est comme ça que je suis allé là-bas. Puis, un peu, par le hasard aussi d'un rencontre, j'ai bien aimé l'extrait là, de Nicolas Bouvier, où lui il parle de passeport ou de quelque chose qui lui ouvre des portes. Moi, c'est souvent les micros sont un prétexte pour la rencontre en fait. Et le fait d'avoir des micros, le fait d'avoir des enregistreurs, ça justifie ma présence, ça justifie ma raison de voyager pour aller enregistrer leur environnement et pour enregistrer avec eux. Puisque comme on l'a entendu dans l'extrait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement la forêt amazonienne, mais c'est aussi ceux qui y vivent.
Alors cette pièce sonore, Félix Blum, s'appelle Amazonia. Elle dure en tout 30 minutes. Elle est disponible, et vous l'avez réalisée, pour Arte Radio, qui est un site pionnier et inventif du podcast en France. Et on peut aussi la retrouver sur le site en une dizaine de cartes postales, c'est comme ça qu'ils appellent ça, de 3 minutes chacune environ. Il y a d'autres cartes, des cartes que vous nous envoyez depuis vos voyages au Mali aussi, au Venezuela. Comment au juste le voyage s'est invité dans votre vie à vous ?
Alors le voyage est arrivé un peu par hasard, je dirais, ou en tout cas quand j'ai commencé à travailler en fait comme preneur de son, quand j'étudiais en fait encore dans une école de cinéma. Moi, je viens donc du sud de la France, d'un petit village dans lequel il y avait pas vraiment, les gens ne voyageaient pas vraiment, il n'y a pas vraiment de nécessité. J'ai jamais eu ce rêve d'enfant de dire je vais voyager. Il y avait aussi, je pense que même sans voyager, cette ouverture d'esprit de mes parents, de gens que je côtoyais. Et donc c'est en commençant à travailler pour des documentaires, pour des reportages, déjà dès 2005, en fait, en allant au Mali avec des collègues de classe, pour travailler sur un film, je me trouvais à voyager, à aller loin. Et donc, en fait, ça s'est très vite enchaîné. On m'a d'un côté mis l'étiquette du preneur de son qui aime bien voyager, qui peut aller dans des conditions un peu aventurières. Et en même temps, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à toujours être à la découverte, et d'être à l'écoute, d'apprendre et à me laisser un peu, porté par les invitations. Et c'est comme ça que le voyage, en fait, s'est imposé de lui-même.
Alors, en vous écoutant, Félix Blum, on a cette sensation très aérienne, panoramique en tout cas, comme des fresques ou en tout cas des larges fenêtres qu'on ouvrirait sur le monde. Sachant qu'il n'y a pas que dans les forêts profondes que vous traînez vos oreilles et vos micros, il y a aussi la ville pleine de sons et de voix, à commencer par celle de Mexico, 20 millions d'habitants et d'innombrables marchands de rue, extrait de Los Gritos des Mexico, autre pièce sonore disponible sur Arte Radio et couronnée en 2015 du prix découverte Pierre Schaeffer.
Pantufla de moda, temporada.
Una bolsa de moda, de novedad, el pase de güerita.
Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche. Ahí
están los tíos, hombre, caballeros, niños, niños.
La pantufla de moda,
$5, señora, aprovecho,
y da 5 pesos,
$5.
Regalo, remate, güera.
Se va de regalo, se va de remate, mira.
¡Aproveche, regalo, remate, güera!
¡Venga, a ver, aproveche, señor!
Félix Blum, cette pièce Los Gritos durant tout 30 minutes, elle est une ode à la ville de Mexico, sa musicalité, son oralité, son humanité, bien sûr, à travers ses voix, sa foule, ses cris de marchands si particuliers qui alpaguent et font le peuple, mais aussi l'identité de la ville. Comment vous avez décidé de recueillir ces voix, ces cris qui deviennent ici, on l'a entendu, des chants?
C'est-à-dire que la première fois que je suis allé à Mexico City, donc c'était en 2009, voilà, pour travailler sur un projet donc qui n'était pas le mien. Et donc c'est une ville dans laquelle bon, j'ai commencé à passer beaucoup de temps, du coup, et en fait, en ayant toujours ce souvenir du premier voyage, de cette première arrivée dans le centre de la ville où j'étais logé et où je travaillais pour la première fois, et où il y avait du coup tous ces vendeurs, tous ces marchands de rue qui vendent à la sauvette et qui du coup pour attirer les passants voilà, vont crier comme on vient de l'entendre. Et j'aimais bien cette idée d'imaginer que tous ces cris, tous ces marchands n'étaient pas forcément des crieurs mais étaient peut-être les voix d'un sorte de chœur polyphonique de la ville ou en tout cas les voix de la ville. Et ce projet-là, c'est en fait finalement le premier que j'ai fait où j'ai commencé à enregistrer pour moi, où j'ai commencé à enregistrer en me disant je vais en faire quelque chose, puisque tous les autres projets que j'avais fait de cartes postales à cette époque-là étaient des sons que j'avais pu enregistrer ou glaner sur d'autres voyages, sur d'autres projets où on m'avait invité à participer et j'avais récupéré les sons pour en faire quelque chose. Donc là, c'était vraiment commencer un projet, commencer à enregistrer en pensant à ça et me dire comment est-ce que je peux partager cette sensation de polyphonie, cette sensation de cœur de la ville. Mexico, donc on imagine souvent ou qu'on pense comme une ville très bruyante. Peut-être que c'est aussi une ville très sonore et que finalement il y a une grande richesse sonore, il y a une identité sonore très forte par rapport à ma connaissance des autres villes d'Occident notamment. Ben, c'était très marqué. Donc c'est ça que j'ai essayé de partager avec Los Gritos de México.
La voix m'intéresse, mais les mots, eux, sont dangereux. Vous avez dit dans l'excellent podcast que Thomas Guillot-Bataille a réalisé sur votre travail, toujours pour Arte Radio. Pourquoi cette phrase, Félix Blum?
Pourquoi les mots sont dangereux? Parce que dès qu'on a des mots, en fait, on entend les mots, on n'entend plus forcément la voix. Alors après, évidemment, ça va dépendre. Mais quand on a l'écoute d'une langue étrangère qu'on ne comprend pas, par exemple, on va en entendre la musicalité, on va en entendre le rythme, on va en entendre beaucoup d'intentions, on va entendre la personne en fait, derrière. Dès qu'il y a les mots, on va plutôt entendre les mots et beaucoup moins la personne. Alors après, évidemment, ça dépend des cas, ça dépend des usages. Mais moi, ce que j'aime bien avec les cris, voilà, c'est qu'on entend, même si on ne comprend pas l'espagnol, on entend de quoi il s'agit, on entend la ville, on entend ces gens, on entend toutes ces voix qui créent une polyphonie. Et c'est vrai que dans mon travail, je me suis souvent intéressé par la voix criée, par la voix chuchotée, même dans les premières cartes postales que j'avais fait en Terre de Feu, c'était des bergers qui criaient à leur mouton. J'aime beaucoup cette idée que la voix nous dit beaucoup sur la personne et que c'est un lien direct avec l'essence même de la personne.
Parce que le monde entier est une musique, tout de suite, on écoute le musicien et metteur en son français Christophe Chassol qui lui aussi puise dans ses voyages et les sons du réel pour composer ses musiques. Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Je connais Chodorité.
À si loin, si proche, on est toujours à l'écoute du monde et ses multiples sonorités en compagnie de Félix Blum, baroudeur sonore français qui, depuis plus de 10 ans, en capte les bonnes ondes pour les restituer au travers de pièces sonores où l'ailleurs est ici et le lointain si proche. Alors Félix Blum, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est essentielle à la prise de son, c'est celle justement de la position, de comment vous travaillez et faites ces prises de son. À chaque fois, forcément, vous partez avec une valise de micro, une perche qui vous signale dans le paysage. Et on utilise à ce sujet souvent le terme de chasseur de son. Et je crois savoir que vous n'aimez pas trop ce terme. Vous êtes plutôt pêcheur dans le genre.
C'est ça. Bon, après, bon, ce sont des métaphores.
Ce sont des termes.
Voilà, ce sont des termes, des métaphores. Moi, ce que j'aime bien, donc, comme je l'ai dit, c'est que mes micros, pour moi, sont un peu ma carte de visite. Hein, c'est vraiment le moyen de justifier ma présence dans un lieu, de justifier ma rencontre avec quelqu'un. J'essaye surtout pas de me cacher en général. C'est souvent, je trouve, l'erreur du débutant preneur de son, d'essayer de se dire « je vais essayer de ne pas déranger, d'être le plus discret possible ». Finalement, moi, j'essaye de ne pas déranger non plus. Mais j'essaye d'assumer, j'essaye de faire partie du paysage ou du décor, en fait, d'une certaine manière. Donc souvent, en fait, d'arriver en avance, d'arriver sur les lieux et puis, voilà, de pouvoir passer aussi beaucoup de temps, de pouvoir être à l'écoute, du coup, en étant immobile, mais surtout en n'essayant pas de me cacher. Et c'est vrai qu'on parle souvent de chasseur de son. Alors, le chasseur de son, c'est-à-dire que souvent, quand on chasse, alors ça dépend des techniques de chasse, mais souvent, on a besoin de viser. On a besoin de viser un animal ou d'être sur, avec un viseur. Et le micro, même si évidemment, on peut le diriger dans un sens ou dans un autre, pour tous ceux qui ont déjà fait la prise de son, on se rend bien compte qu'on enregistre aussi ce qui est derrière, ce qui n'est pas dans le viseur. Et donc, c'est vrai que je préfère cette idée du pêcheur où le pêcheur jette son hameçon et lui, il ne vise pas. Il va être à l'attente et il va attendre. Il va aller à un endroit particulier, précis, pour avoir un poisson particulier. Mais il n'est pas sûr de ce qu'il aura. Il peut très bien ne rien avoir. Il peut très bien avoir un poisson beaucoup plus gros que ce qu'il imaginait, qui va lui arracher sa canne à pêche. Et quand on fait la prise de son, voilà, on peut aller à un endroit pour chercher un son, pour se dire « tiens, je vais enregistrer telle ou telle chose ». Souvent, on a autre chose et parfois, on a justement des sons qui ne sont pas adaptés au micro qu'on avait. Parfois, on se laisse embarquer aussi par d'autres choses. Et donc, j'aime bien cette idée d'être à l'attente, d'être à l'écoute. Et en fait, un peu comme en pêche, à la prise de son, il faut être là avant. Pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on jette son hameçon sur le poisson, ben, on assure que le poisson va s'en aller et qu'il ne va pas mordre à l'hameçon. Et pour le son, c'est un peu la même chose. Si le son a déjà commencé, si la chose est déjà là, en fait, on est là trop tard. Il faut être là avant pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir faire partie de ce paysage et pour pouvoir le capter.
Et donc, vous l'avez dit, il faut être à l'écoute, qui est évidemment au centre de votre travail. Et récemment, à la faveur des confinements qu'on a tous vécu de par le monde, dans cet état stationnaire, immobile, contraint en tout cas, où forcément la frénésie des hommes, des villes s'est ralentie, voire arrêtée, beaucoup ont redécouvert alors, le son du vent, de l'oiseau à la fenêtre, ou du silence, s'il existe quelque part. Quel serait le son pour vous de cette drôle d'époque ?
Je pense qu'en fait, la plus grande différence sonore durant cette pandémie, elle s'est passée dans les villes, où tout d'un coup, il y a eu moins de trafic, il y a eu moins de circulation, peut-être moins d'avions aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qui était au niveau mondial.
Moins de pollution sonore, comme on appelle ça parfois, même si ça fait partie de nos environnements aujourd'hui.
Voilà, quand on parle de son, qu'est-ce qui est une pollution ou pas ? En tout cas, c'est vrai que tous ces sons qui sont tendance à être un peu uniformisés, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire qu'un son de route ici, ou enfin, une ambiance de ville ici, une ambiance de ville ailleurs. Alors certes, ça peut être différent, mais c'est souvent quand même surtout des voitures au loin, éventuellement des avions, éventuellement un train. Mais enfin, voilà. En tout cas, la réduction de ça a permis tout d'un coup de se prendre conscience des autres sons qui étaient présents dans les villes. Voilà, moi c'est quelque chose que comme je n'ai pas vécu puisque j'étais pas dans les villes pendant ces multiples pandémies. J'ai essayé de les éviter justement.
Alors en ces temps troublés, il est plus que jamais urgent de rêver la ville. Alors on va écouter à présent une pièce que vous avez réalisée pour notre consoeur et amie Monica Fantini de Écouter le Monde, diffusée chaque semaine sur l'antenne de RFI. Au travers d'un appel à participation, Monica a demandé à des contributeurs du monde entier d'offrir en son leur rêve de ville et voici le vôtre. Félix Blum, à l'écoute de cette pièce sonore, La ville rêvée serait une formidable galerie sonore aux allures d'atelier où l'on entend la main de l'artisan avec son rythme au centre. Je me demandais pourquoi ce choix et ce rêve.
Bon, je pense que ce rêve il vient en fait de ce qui a précédé mes études d'ingénieur du son, c'était la musique et donc c'était les percussions classiques en fait, que j'ai étudiées pendant une dizaine d'années au conservatoire comme un loisir. Hein. Et en fait, quand j'ai dû, après à 18 ans, choisir des études, choisir une carrière, je me suis dirigé vers le son en me disant « je veux travailler autour de la musique, mais sans être musicien moi-même ». Et en fait, donc au départ, plutôt autour de concerts, et quelque chose que je n'ai pas, en fait, finalement pas beaucoup pratiqué, un petit peu au début de mes études. Et en fait, je pense que le son a pris la place de la musique d'une certaine manière. Donc, au lieu d'accompagner la musique, en fait, elle a pris sa place. Et du coup, quand j'étais invité à penser, à rêver une ville, chose qui ne m'arrive pas souvent, parce qu'en général, moi, je pars d'un lieu précis et j'essaie de leur raconter mon expérience dans ce lieu, mais ça part d'un territoire défini. Donc là, la ville rêvée, justement, ça permettait de mélanger des sons de différents lieux et d'imaginer comment est-ce qu'il pourrait y avoir une ville qui serait percussive, qui serait rythmique, qui aurait un tempo. Et le son du début, le son qui en fait le chef d'orchestre d'une certaine manière, c'est un bâton d'aveugle qui tape dans la rue. Et donc c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de projets avec des personnes aveugles et j'aimais bien cette idée que le chef d'orchestre de cette ville rythmique était la canne d'aveugle de cette personne-là qui viendrait guider toute la ville.
Sachant qu'on a entendu des clochettes de marchands ambulants, il y a aussi des forgerons de Kinshasa.
Exactement.
Il y a quand même cette idée du travail aussi de la main.
Oui, il y a le travail en fait de la plupart des gens qui travaillent en fait qui produisent ces sons le font pour leur profession. Donc on a en effet des sons de Kinshasa, on a les forgerons, mais on a aussi quelqu'un qui fait taper deux bouteilles de vernis à ongles pour annoncer donc son passage. On a le son sur les bouteilles de gaz de Valparaíso au Chili. On a des sons de Mexico, des clochettes qui sont là aussi pour annoncer soit la poubelle, soit les glaces. Enfin, chaque son en plus est spécifique et annonce quelque chose de spécifique selon le lieu, selon l'heure et selon le pays dans lequel on est.
Alors pour finir, Félix Blum, j'aimerais qu'on parle aussi des dispositifs d'écoute que vous mettez en place un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer déjà quelques-uns. Il y a cet arbre au Mexique où dans les branches sont suspendus des réceptacles de pluie qui gouttent en fait sur des bols métalliques disposés au pied de l'arbre qui laissent entendre comme les pleurs de l'arbre. Il y a aussi ces portes que vous avez disposées au cœur d'une forêt belge où l'on écoute à la porte comme indiscret en fait les récits de vie de migrants qui sont accueillis dans un centre de réfugiés avec lequel vous avez travaillé. Et puis tout récemment en France, 250 petits haut-parleurs sous lesquels on se place et l'on entend de lancinants bourdonnements. Félix Blum, cet essaim d'abeilles, vous l'avez en fait reconstitué, parce qu'il faut le dire. Chaque abeille qu'on entend, en fait, a été enregistrée via un studio assez étonnant d'enregistrement que vous avez conçu spécialement. Racontez-nous cette histoire qui est assez fascinante quand même.
On a construit un studio d'enregistrement pour ces abeilles, en collaboration avec un apiculteur et puis toute une équipe. Avec des petits supports, des petits réceptacles pour qu'elles viennent butiner soit de l'eau sucrée, soit du miel. Et puis en fait, l'inviter à voler dans cet espace pour pouvoir enregistrer son vol. L'idée de base était assez simple, c'est-à-dire voilà, on va décomposer un essaim et on va pouvoir avoir cette multiple écoute, cette écoute de l'ensemble, de la multitude, de l'essaim quand on fait quelques mètres en arrière. Et aussi la possibilité d'écouter chacun des individus comme autant de voix, comme autant de témoignages qu'on pourrait imaginer de ces ouvrières puisque ce ne sont que des butineuses.
Et qu'est-ce qu'elles nous disent alors, ces abeilles ?
Quand on écoute les abeilles, c'est aussi leur donner une importance, c'est aussi prendre conscience de leur importance dans la biodiversité et dans le monde d'aujourd'hui. On a parfois l'idée que le son serait quelque chose d'objectif, qui serait quelque chose de général, d'universel. Je pense qu'en fait, c'est très singulier et que l'écoute dépend beaucoup de notre histoire, de notre vécu, de nos références culturelles. Et je pense qu'écouter, c'est aussi se poser la question de comment est-ce qu'on s'inscrit dans un lieu, comment est-ce qu'on s'inscrit dans une société, dans un rapport au monde. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien partir de l'écoute, partir des micros qui sont en fait des récepteurs. Et après, on peut recevoir ce qu'on a envie de leur donner à entendre.
Et ensuite, on les transmet sur les ondes. Félix Blum, merci.
Merci beaucoup.
Cette installation Essaim a été présentée en France à Marseille pour la première fois à la fin juin 2021 aux ateliers Jeanne Barret. Jeanne Barret, tiens, une figure voyageuse que l'on connaît bien à si loin si proche. Première femme à avoir fait le tour du monde au XVIIIe siècle, elle a dû se déguiser en homme pour embarquer à bord des voiliers de l'expédition de Bougainville, une figure que ne renierait sûrement pas notre deuxième invitée Sophie Berger, une bourlingueuse sonore pour qui le monde est un océan de sons.
On pourrait croire que c'est de la pluie. On pourrait croire que c'est de la pluie, mais en fait, non. Je pense. Enfin, je sais pas, on a vraiment l'impression que ça fend la mer, quoi. Qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'eau, en fait.
C'est comment l'étrave ?
L'étrave, c'est l'avant du bateau. C'est ce qui fend la mer. Au-dessus du bulbe, c'est l'étrave. Du navire. Je trouve que c'est apaisant. Non, c'est agréable, ça me fait me sentir un peu mieux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est mon univers, je sais pas.
Moi, ça me raconte le départ. Ça.
Ah ouais. Ton voyage.
Sophie Berger, bonjour.
Bonjour.
Alors avec cet extrait de votre pièce sonore Cargo, on embarque loin, très loin, à bord d'un porte-container au large. Vous, Sophie, vous êtes ingénieure du son et créatrice sonore, vous avez 36 ans. Et pour ce travail, vous avez donc embarqué en 2015 sur un gros cargo depuis Le Havre jusqu'en Chine et retour. Un voyage qui a duré 3 mois et durant lequel, avec vos micros, vous avez tourné autour de cet énorme navire de son. Du craquement de la coque au bruit de l'étrave qui fend l'eau, avec bien sûr aussi cette corne de brume qu'on a entendue et qui, à sa manière, dit le mot « voyage » ou « départ » peut-être.
Oui, sans doute les deux. Cette corne, quand je l'ai entendue, j'ai tout de suite su, je veux dire quand je l'ai entendue acoustiquement sur le navire, j'ai tout de suite su qu'elle ouvrirait ma pièce sonore. Je voulais ramener des sons, ramener une histoire de ce départ, de ce voyage en mer. Et c'est amusant parce que cette corne, c'est quelque chose que je fais souvent entendre en atelier. Je fais souvent entendre les rushs de cette corne, les différentes prises de son de cette corne.
Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup. Vous l'avez beaucoup entendue, vous l'avez beaucoup cherchée. Et celle-là, celle qu'on a entendue, cette prise, c'était la bonne. Racontez-nous un peu l'histoire justement de cette prise de son.
Alors, cette prise de son, c'est quand on entend cette corne de brume... J'ai passé déjà 2 mois sur le navire, on est en Chine, et il y a cette brume, ce brouillard qui tombe sur la mer, et les bateaux se signalent puisqu'ils ne se voient plus, ils se signalent par cette corne. Et donc c'était le petit matin, j'étais dans la cabine et j'entends cette corne, et ça me réveille et je me dis ce son, j'ai envie de l'enregistrer. Pour moi l'enregistrement il part de ça, de ce sensible-là, de cette envie, de ce désir, de cette écoute. Et évidemment, le premier réflexe, c'est de partir sur le pont, d'abord de partir à la passerelle, d'aller enregistrer. La passerelle, c'est le poste de commandement de ce navire. Donc c'est l'endroit où il y a la cabine de pilotage. Et puis en fait, on recueille la ventilation. Alors on part sur le pont et puis on recueille les moteurs. On recueille les conteneurs réfrigérés qui ont des ventilateurs et des moteurs. Ça s'appelle les reefers, ces conteneurs. Et donc on recueille cette corne, mais on recueille aussi tout le reste, puisque les micros, eux, ils prennent tout le son du réel. Une des façons d'aller s'approcher au mieux de ce son, c'est d'avancer et de se mettre au plus près de la source. Alors je suis allée à l'avant du navire et je me mets au pied du mât où il y a cette corne. Et le son qu'on recueille est un son où effectivement il ne reste plus que la corne. Mais cette corne, elle est sèche, elle est agressive presque au niveau des fréquences, elle est assez nasale. Et c'est le son d'une corne tirée du réel quasiment, qui ne raconte pas grand-chose, qui est presque un bruitage et qui n'emmène pas en voyage quand on l'écoute. Et c'était pas ça le son que je cherchais. Le son que je cherchais, c'était cette corne que j'avais entendue dans ma cabine de loin, qui créait des images. Et alors à ce moment-là, j'ai profité du fait que j'avais passé déjà 2 mois sur ce navire et que je connaissais, pour les avoir écoutés, entendus, un peu toutes les acoustiques du navire. Et j'ai eu l'idée de partir à l'avant du navire, là où il y a les trous, pour passer les lignes d'amarre quand on met le bateau à quai. Et là, j'ai passé les micros par-dessus bord, en fait. Et donc, je suis allée rechercher tous mes câbles que j'ai raboutés. J'ai enlevé la perche et j'ai passé les micros directement par-dessus bord. Et à partir de ce moment-là, j'ai récupéré dans la prise de son le son de la mer que j'avais dans les micros. Et puis, j'ai récupéré le son de la corne, mais qui, cette fois, se réverbérait contre la coque métallique du navire. Et je recueillais une image sonore qui, cette fois, donnait du mouvement. Puisque j'étais à l'avant du bateau, là où le navire fend la mer. Donc j'avais ce mouvement du bateau qui avance dans l'océan. Et cette corne-là, cette prise de son-là, pour moi, c'était une prise de son qui, cette fois, pouvait raconter. C'est-à-dire que quand je pouvais la diffuser pour ouvrir une pièce, elle créait de l'image, elle créait de l'horizon, elle créait du souvenir. Et elle allait pouvoir créer de l'écho chez l'auditeur, simplement.
Alors, créer de l'horizon, larguer les amarres, c'est aussi ce que vous recherchez. Parce que quand vous êtes monté à bord de ce bateau, on l'a dit, c'était 3 mois de voyage. Vous avez laissé derrière vous le téléphone, l'Internet, afin, on le sent bien, de faire corps avec vos oreilles, avec ce bateau et ce monde plus largement, souvent méconnu, des grandes traversées maritimes commerciales. C'est vraiment souvent, et même dans vos pièces, des immersions.
En tout cas, j'ai eu besoin de passer par là, effectivement. De passer par le voyage au long cours, par le fait de quitter sa réalité, son quotidien, de se déconnecter aussi d'une certaine façon et de créer les conditions d'une écoute finalement, d'une écoute radicale, c'est-à-dire les conditions d'une disponibilité. J'étais dans ce voyage sur le cargo ou dans d'autres, j'étais vraiment avec le son, j'étais vraiment avec l'écoute et j'étais disponible radicalement.
Alors partir pour se rendre vulnérable et en alerte, aiguiser ses sens, parmi lesquels Louis bien sûr, c'est ce que recherchent finalement tous les voyageurs. Et dans votre démarche, Sophie Berger, le voyage fait partie intégrante de votre usage sonore du monde à vous. C'est même pour ainsi dire votre destination. Extrait de Loire, une création sonore primée en 2014 du prix Découverte Pierre Schaeffer, qui récompense, je cite, « des auteurs qui, à moins de 30 ans, amorcent une voie singulière dans l'écriture des sons du monde ». Loire ou le récit de votre longue marche le long du fleuve sur 1000 km.
Tu sais, les chemins pour grimper sont pleins de pierres. Quand tu marches dessus, ça donne cette musique spéciale. Les odeurs, les couleurs. C'est le vert et le marron des pierres, quoi. Et aussi mes chaussures sur le sol, ce rythme. Mm-hmm. ce feeling d'avoir mangé du chemin, si tu veux, hein.
Sophie Berger, la marche, son souffle, ses pas, c'est une musique que vous restituez ici, on l'a entendu à votre manière. La marche est aussi un appel auquel vous avez répondu il y a près de 10 ans, c'est ça ? Et oui. Signant par là aussi votre toute première création sonore. Parce que vous êtes partie, je ne sais pas si c'est sur un coup de tête, mais en tout cas vous avez vraiment eu besoin de partir et vous étiez encore étudiante en son à l'époque.
Oui, tout à fait. J'avais fait une école qui s'appelle l'ENSAT, qui est une école de théâtre dans laquelle il y a toutes les sections, tous les corps de métier du théâtre, dont la section son. Et partir marcher, ça a été une façon, à la suite de cette école, d'apprendre, une fois que je savais bien faire du son techniquement, d'apprendre à passer ça par le corps, c'est-à-dire à trouver ma voix, ma façon.
Vous mettre en jeu, finalement, physiquement aussi, puisque c'est vrai que la marche, c'est le corps.
À me mettre en jeu, tout à fait, et puis à trouver par où ça passait pour moi. C'est-à-dire que je suis fondamentalement convaincue que prendre le son, ça passe par le corps d'un preneur de son, ça passe par une écoute, ça passe par... Oui, par quelqu'un, c'est pas un bouton, des micros, on déclenche sur on, c'est pas capter du réel en fait, c'est comment on met en jeu une écoute et comment on la restitue. Et cette chose-là, le fait de marcher seule pendant des mois avec mes micros, ça a été une façon d'apprendre ça, d'apprendre à écouter. Mais d'apprendre à écouter vraiment. Et puis le fait de me mettre en marche, c'était une façon aussi d'être dans la lenteur finalement. Ça apprend la patience.
Mais c'est vrai qu'on sent, on en a parlé avec Félix Blum, qu'il y a cette position d'attente, comme vous l'avez dit, de patience. Et que finalement la prise de son, moi j'ai pensé à ça, c'est un peu une quête de hasard en quelque sorte. Vous attendez qu'il surgisse dans le micro, que quelque chose se passe.
Alors, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est l'attente qui est merveilleuse. C'est une phrase des surréalistes, souvent, d'André Breton. Et il y a quelque chose d'une attente qui n'est pas passive. Il y a quelque chose d'une attente où on se met avec l'écoute, on se rend disponible et on va orienter les choses. Pendant cette marche en Loire, je me souviens d'un moment aussi où il y avait un tracteur comme ça qui passait dans le champ, qui s'éloignait, qui se rapprochait. Bon, ça faisait on enregistrait le son d'un tracteur. Et puis, à attendre et à écouter, à un moment donné, il y a un avion qui est rentré dans le champ. Et le fait, comme ça, d'être à l'attente, à l'affût, et d'avoir la prescience de tourner les micros et d'entendre ce qui se passait, mais on se rend compte qu'à ce moment-là, le son qu'on enregistre, il va raconter vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'on a le tracteur qui s'éloigne, à ce moment-là, on a l'avion qui rentre, donc on a un croisement de deux réalités, de deux mondes, le monde de la lenteur et le monde de la vitesse. Ça raconte plein de choses aussi sur nos modes de vie, sur... Voilà, donc c'est comment le son aussi raconte des choses sur nous.
Mais sur la route ?
Sur la route.
La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais 3 pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis monté, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis monté. Pleine, mais le cœur n'a pas assez. yeux qui piquent, main de dentelle, figure de bois, je fais trois pas et tu es là sur la marée haute, je suis mon.
C'était Lassa de Sela et la marée haute sur RFI. La route continue à Sivoin si proche en compagnie de Sophie Berger, artiste nomade, qui depuis 10 ans s'est lancée micro, perche et enregistreur en main à l'écoute du vaste monde. Sophie Berger, on a parlé du rythme de la marche, de la lenteur et de la position qu'implique aussi la prise de son. Cette lenteur, on la retrouve aussi dans vos pièces sonores qui durent déjà une heure, c'est pas une règle. Mais aussi dans le rythme de la parole, la vôtre, puisqu'on vous entend, mais aussi dans la parole de tous ceux que vous rencontrez en chemin. Il y a une grande place comme ça au silence dans ces échanges, et peut-être en fait, j'ai envie de dire, à l'écoute finalement. C'est ça qu'on entend dans ces silences.
C'est formidable que vous le disiez, en tout cas c'est ça que je mets en jeu effectivement. Quand j'enregistre la voix, j'essaye de l'enregistrer comme un paysage aussi, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle raconte. Je ne viens jamais comme une journaliste, puisque je ne le suis pas. Je ne viens pas chercher des réponses. Parfois, je ne pose même pas de questions. C'est vraiment une façon de... Ce qui m'intéresse, c'est ce que la voix va nous dire, mais ce qu'elle va nous dire aussi dans son son. Et la voix, elle, dans les pièces, dans la façon dont je la monte, c'est plus une façon d'ouvrir des portes pour l'imaginaire. Et de pouvoir ensuite juste ouvrir la porte et derrière, il y a la place pour celui qui écoute, pour se faire le reste du chemin. Donc, ce n'est pas une voix qui va composer une narration trop construite. Et je prête une attention à ça aussi dans le son de cette voix, puisque une voix, elle va raconter dans son grain aussi. Je pense à ça parce qu'il y a une voix que j'avais enregistrée dans une pièce qui s'appelle 49 degrés sud, où je pars dans les terres australes et où j'avais enregistré, ce sont des îles sud-sud-sud dans lesquelles vivent des scientifiques. Et j'avais rencontré des scientifiques là-bas précisément. Et cette voix, elle n'emmenait pas forcément en voyage dans le vocabulaire, mais dans le grain de la voix aussi, dans la façon dont la voix se posait, dans l'adresse aussi. Et j'ai cherché à travailler cette voix et finalement à la remplacer par une autre voix qui disait la même chose, mais en cherchant dans la voix quelque chose qui raconte et qui surtout laisse la place à celui qui écoute.
Je suis arrivée à Kerguelen en hélicoptère, depuis le bateau. Il n'y a pas d'arbres. Pas de fleurs. Non, il y a des montagnes rocheuses, un peu d'herbe, des espaces très verts, des espaces très bruns. Je sais plus si c'est beau. On s'attend à tout moment à Kerguelen à voir des mutants. C'est à Kerguelen où il y a des mouches sans ailes. En fait, il y a tellement de vent qu'elles ont perdu leurs ailes. Et maintenant, il y a une espèce de mouche sans ailes qui vit à Kerguelen et qui se déplace grâce au vent.
Sophie Berger, vous êtes donc partie dans cette France du bout du monde, depuis laquelle vous avez ramené cette pièce sonore, 49 degrés sud ou 49 sud, dont on vient d'entendre un extrait. Ce voyage, vous l'avez fait en 2017, puisque vous avez eu la chance de monter à bord du Marion Dufresne, ce navire océanographique français chargé du ravitaillement des TAF. Comment vous avez appréhendé ce voyage vers ces terres subantarctiques, parce que vous êtes allé sur ces archipels de Kerguelen, Crozet, Saint-Paul, Amsterdam, des lieux où l'empreinte de l'homme est quasi inexistante et où on le sent, la poésie, l'isolement, le sauvage, eux, semblent partout. Comment vous avez appréhendé ça ?
Oui, l'idée, c'était vraiment... je suis partie avec l'idée d'enregistrer sans savoir sur quoi j'allais tomber. C'est-à-dire que ces îles, on les appelle les îles de la désolation. Il y a le froid, il y a le vent, il y a des montagnes. Mais finalement, comment restituer ce bout du monde ? Et comment, à partir du son, on va venir projeter ces images ? Qu'importe si elles ne sont pas exactes, ce qui m'intéressait, c'est vraiment toutes ces sensations. On a un pouvoir d'écoute qui est fascinant, qui permet de filtrer le réel et puis d'entrer dans l'imaginaire. Ce que j'essaye de faire dans les ateliers que je mène quand je rencontre du public jeune, justement, c'est d'essayer de montrer à quel point l'écoute est un pouvoir formidable qu'on a chacun. Elle est beaucoup plus puissante justement que nos micros et elle va bien au-delà dans la mesure où elle est branchée sur notre cerveau. Notre écoute, elle passe par notre mémoire sonore, elle passe par des couches de son.
Début juillet 2021, vous y avez sûrement fait référence, vous avez réalisé avec la Gaîté Lyrique à Paris des ateliers sonores avec des enfants afin de partager le fameux super pouvoir de l'oreille, mais aussi pour imaginer avec eux des voyages extraordinaires. Alors ça m'intéresse, je me demande, c'est quoi les voyages sonores qu'ils vous ont proposés, ces enfants, qu'ils ont inventés ?
Alors, l'idée, c'est de raconter un voyage. Je leur propose une trame et ensuite, ils ont à disposition une série de matières sonores, que ce soit des ambiances que j'ai enregistrées, qui à chaque fois sont différentes et c'est à eux de choisir entre plusieurs sons de forêt, plusieurs sons de mer, comment chaque ambiance raconte des histoires différentes. Et puis, entre des couches plus musicales, des couches de bruitage, la voix aussi, toutes ces couches qui font les histoires sonores, et raconter une histoire de cette façon-là, c'est toujours partir du sensible.
Et donc, c'est quoi les voyages qu'ils vous ont proposés, par exemple ?
C'est l'histoire d'enfants qui embarquent à destination d'une forêt lointaine, à la recherche d'un personnage perdu, qui est le personnage de la Gaîté Lyrique des ateliers, qui s'appelle Capitaine Futur. Et on part le chercher, on rencontre des animaux extraordinaires.
Qui font du bruit ?
Qui font beaucoup de bruit.
Et qu'est-ce que ça suscite chez vous, pour finir, Sophie Berger, justement, cet échange, cette transmission, cette sensibilisation au son ?
Ce qui me plaît, c'est toujours de mettre en jeu, en premier, l'écoute. Et ça, c'est de se dire que dans un monde où on est abreuvé d'images aussi, on a ce bien commun à partir de nos oreilles. Et on n'a même pas besoin de micro, on n'a même pas besoin de matériel. On a quelque chose de très précieux.
Sophie Berger, merci.
Merci à vous.
Sur notre site rfi.fr, rubrique podcast « Si loin, si proche », vous retrouverez la page de cette émission « L'usage sonore du monde » avec les liens des sites de Sophie Berger et Félix Blum afin de prolonger le voyage, en son, bien sûr. Merci à Lina pour ses archives. Merci aussi à Sylvain Gire d'Arte Radio et à Monica Fantini d'Écouter le Monde. Laura Larré, Céline Develay-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs, et l'on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Et d'ici là, ouvrez grand les oreilles à l'écoute de RFI et du monde.